MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous abordons un thème très important pour terminer cette semaine. Comment réagir face aux fausses accusations? Alors, il y a des fausses accusations, des fois, qui sont moindres, mais d'autres qui peuvent être très, très lourdes à porter et lourdes de conséquences. Et on va parler de notre attitude dans cette situation avec Omer et Frank. Hello, messieurs.
Salut, Evelyne.
Bonjour, Evelyne.
Omer, bienvenue sur le plateau. Toute la semaine, nous t'avons attendu, mais tu n'es point venu.
Sur les bancs des ex-accusés et justifiés.
Wow.
Voilà, et voici, prêt à encourager mes frères.
Ça sent douce, cette réplique.
Ça semble avoir vécu quelque chose, en tout cas.
J'ai l'impression, apparemment, tu es la bonne personne pour faire cette pensée du jour, Omer. Non ? Ok, on répondra.
Dieu nous aidera.
Dieu nous aidera. Il est humble, en plus, il est humble. Frank, aujourd'hui, tu fais une rubrique flashback. C'est la première fois qu'on fait ça un vendredi. Comme je le disais, hein, les émissions dans la nouvelle saison de Bonjour chez vous, il n'y a plus forcément de routine dans les thèmes abordés selon les jours. C'est plutôt les thèmes qui vont décider les rubriques qu'on va mettre à l'intérieur. Et aujourd'hui, donc, tu vas continuer une rubrique flashback que tu avais commencé dans l'ancienne saison de Bonjour chez vous, les martyrs numéro 2. C'est affreux.
Ben, ça m'a fait plusieurs martyrs que je fais, mais là, c'est comme... un numéro 2 après la première.
Excusez-nous, c'est vendredi, excusez-nous.
C'est ça, il y a de la
fatigue.
En fait,
tu ne fais pas des martyrs, tu racontes l'histoire des martyrs.
Ouais, c'est clair.
Ça, c'est certain. C'est clair. C'est une histoire qui se déroule dans les années 1700, tout début de 1800.
Tu nous parles d'une personne ?
Principalement.
Principalement.
Principalement une personne, et vous allez voir tout à l'heure.
Oh, je m'accroche déjà. La dernière fois, je me souviens, l'Indien...
Il n'y avait pas de famille.
Ça va déjà aller mieux pour moi. Oh, il y a des enfants, il y a des enfants, donc moi, je ne supporte pas ça. Oh là là.
Ouais.
Bon, bah, si vous me voyez partir pendant l'émission, vous saurez pourquoi. Allez, Omer, on va commencer. Pendant que je suis encore avec vous, avec la pensée du jour.
Comment faire face aux fausses accusations? J'aimerais commencer cette pensée par t'encourager, toi qui es accusé, à vrai ou à tort, l'accusation a toujours la même réaction, c'est que ça fait mal. Une accusation, en fait, est une des meilleures stratégies de l'ennemi pour détruire et ralentir quelqu'un qui est pleinement engagé dans le royaume de Dieu. Et dans ce cas, ici, on parle des fausses accusations. C'est une stratégie de l'ennemi parce qu'en fait, l'accusation fonctionne comme le vénin d'un serpent. En fait, c'est comme un poison qui rentre en nous et tranquillement commence à nous paralyser de l'intérieur vers l'extérieur. Et parfois, on va dire, ben, écoutez, ça ne me fait rien. Mais en réalité, c'est que si on ne traite pas avec l'accusation qu'il y a au-dedans de nous, tôt ou tard, cette accusation va nous détruire à petit feu. Et on va se rendre compte 3 mois, 6 mois plus tard qu'on n'a plus le goût des choses de Dieu, on n'a plus envie de servir Dieu. On pense que c'est les circonstances qu'on a croisées maintenant, mais en réalité, c'est l'accusation que nous avions croisée. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que nous serons tous accusés à un moment ou à un autre. Jésus a été accusé, et je viendrai à cela tout à l'heure. Moïse a été accusé, et plein d'hommes de Dieu dans l'histoire ont été accusés. Élie a été accusé. Et Jésus a dit, si on fait cela au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Et nous sommes ceux qui devons ressembler à Christ, donc nous serons accusés à un moment ou à un autre. Au plus vous êtes zélés pour le royaume de Dieu, au plus on va vous accuser à tort. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 18 à 19, pour faire preuve des accusations. Il dit, « Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. » Ils disent, « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors peut-être que vous faites face à des fausses accusations, j'aimerais vous donner quelques conseils qui vont vous aider. Premièrement, je vous encourage, entendez les accusations, parce que si vous entendez les accusations, voilà, mais n'y mettez pas trop le cœur. Votre valeur et votre valeur ne dépend pas de ce que les hommes disent de vous, mais elle dépend de ce que Dieu dit de vous. Votre identité n'est pas liée aux hommes autour de vous, mais c'est lié à Dieu. Deuxièmement, j'aimerais vous dire, voilà, acceptez que les gens auront une diverse opinion sur vous. Certains penseront que vous êtes un adultère, d'autres penseront que vous êtes un voleur. Qu'importe ce que vous allez faire pour justifier, parfois c'est des mensonges que l'ennemi a mis dans la tête des gens. Et au plus, vous passerez du temps à vous justifier. On dit en français que qui se justifie s'accuse en fait. Donc parfois, il faut juste laisser la chose devant Dieu. Et si on peut se justifier de façon très minimale, mais on sait qui on est. Troisièmement, j'aimerais que vous appreniez à prier pour ceux qui vous persécutent. Parfois, on pense que la persécution, c'est des pierres qu'on nous lance, mais parfois, c'est des paroles qui sortent et on a du mal même à gérer. On ne peut pas prouver qu'on n'est pas ce que les gens disent. Alors, priez pour ceux qui vous persécutent parce que parfois, sans se rendre compte, ces personnes sont des instruments entre les mains de l'ennemi. Ils pensent faire le bien, mais pourtant, ils sont en train de faire le mal. Priez pour votre guérison intérieure, parce que l'accusation attaque le domaine de l'âme, attaque vos émotions, attaque votre identité. Et si vous ne priez pas pour que votre âme soit guérie, pour que vous soyez restauré, vous aurez du mal à bien réagir face aux accusations, vous risquez de devenir amer. Et finalement, j'aimerais vous dire, Dieu dit dans sa parole, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Laissez Dieu et le temps vous justifier, car la meilleure justice, elle vient de la part de Dieu.
Amen, yes. Amen. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Hein. On a vraiment, par nature, on a ce réflexe de vouloir nous faire justice nous-mêmes, de vouloir nous justifier, de vouloir rétablir la vérité de toutes nos forces. Et c'est vrai que parfois, plus on essaye de le faire, et pire c'est. Et Jésus n'a jamais voulu rentrer dans des discussions avec les pharisiens qui l'accusaient. On lui posait des questions, il répondait « Tu le dis ?» Et c'était sa seule réponse. C'est un exemple vraiment à suivre de quelqu'un qui a supporté la plus grande des injustices, la plus grande des fausses accusations. On l'a traité de fils du diable à un moment donné. On lui a donné tellement de noms terribles et il n'a jamais répliqué, il n'a jamais répondu. Et d'ailleurs, il nous a prévenu que ça nous arriverait à nous aussi. Dans Matthieu 10, 22, qui est notre verset du jour, il a dit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et la pire des choses qui pourraient nous arriver si on est victime de fausses accusations, victime d'injustice, c'est de tellement pas garder notre cœur qu'on en perd jusqu'à notre salut, rempli de haine, rempli d'amertume, et on en perd jusqu'à notre éternité. Ce serait dramatique parce qu'on aurait tout perdu. Et notre attitude face à ce genre de situation est primordiale, non seulement pour notre témoignage, mais aussi vraiment, ça peut aller jusqu'à affecter notre éternité.
Et oui, c'est pour cela que l'ennemi utilise l'arme de l'accusation. Et souvent, en fait, je veux dire, l'accusation, elle a du poids lorsqu'elle vient de quelqu'un qu'on estime. Parce que si je marche dans la rue et qu'un fou me dit que je suis voleur, ben, on s'en fout que le fou me dise que je suis voleur. Il n'a pas de valeur pour moi. L'accusation, la trahison de Judas a du poids parce que Judas est un intime de Jésus. Et souvent, nous pensons que les accusations vont venir de quelqu'un, de fausses accusations vont venir de quelqu'un de loin. La fausse accusation dans la vie de Joseph a du poids parce qu'elle vient de la femme de Potiphar avec laquelle il interagissait tous les jours. Et donc, souvent, on se prépare à l'extérieur, mais on ne se prépare pas à l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, l'un d'entre vous me trahira. Il dira avant ça, l'un d'entre vous, dans la version anglaise, dit l'un d'entre vous est un diable. Ça veut dire l'un d'entre vous est un traître, en fait. Et l'accusation fait mal. Et j'insiste là-dessus parce que nous serons parfois faussement accusés par des gens en qui nous avons confiance, des gens que parfois nous avons amenés à la foi, des gens que nous avons encouragés. Et c'est ces mêmes personnes qui, parfois, de façon maladroite, parfois de façon volontaire, parfois de façon maladroite, vont poser un geste qui va être une trahison pour nous. Et si on n'est pas préparé à ça, tout notre édifice de notre foi, on risque même d'abandonner le ministère.
De s'arrêter. Ça aurait pu être le cas de l'apôtre Paul. Il est passé devant Festus, devant le roi Agrippa, devant toutes sortes de personnes. Il a expliqué, il dit, mais on trouve aucune faute en cet homme qui mérite la mort comme ça. Et les Juifs continuaient, non, il doit... les pharisiens, etc. Mm-hmm. Mais tu dis, l'apôtre Paul, il aurait pu se plaindre. Mais Seigneur, je suis pris ici, ça fait un an, ça fait plus d'un an, ça continue, il y a même des guet-apens, ils veulent me tuer, ils veulent me prendre. Qu'est-ce que c'est, cette injustice? J'en ai assez avec toi! Mais comment est-ce qu'il aurait pu faire ça? Je veux dire, il aurait pu. La majorité des gens auraient dit, il est dans ses droits, pourquoi est-ce que... Mais il a demeuré accroché. Il a dit, Seigneur, je sais que je dois me rendre devant César. Je dois aller à Rome. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai une mission à accomplir. Et même s'il y a des injustices, je sais que toi, tu vas me justifier tôt ou tard. Et que tu vas me récompenser. Et même ce que vous vivez présentement, tôt ou tard, que ce soit dans ce monde ou dans celui à venir, Dieu vous récompensera. Parce qu'il connaît le début de la fin, le début. Il sait toutes choses. Il connaît ce que vous vivez. Restez accrochés à lui.
Et il y a des cas comme ça qui vont se régler sur la terre, comme Frank dit. Il y a des cas, des accusations, des fausses accusations que Dieu règle sur la terre. Et il y a des cas que Dieu réserve pour l'éternité. Dans l'éternité, Dieu va le régler. Dieu va dire, écoute, ça, j'avais permis comme une écharpe dans la peau et tu dois vivre avec pour nous, voilà, pour des raisons qui restent encore mystérieuses pour nous. Mais ce que j'aimerais dire dans le domaine des fausses accusations, un des buts de Satan dans le domaine de la fausse accusation, Satan va venir essayer de vous tenter de différentes manières. Quand il sait qu'il ne peut pas vous avoir, une des stratégies, c'est de lancer une fausse accusation. Pourquoi? Parce que le but de la fausse accusation, c'est de vous faire devenir ce que l'accusation est. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, si on vous lance l'accusation, ben, c'est un adultère. Si vous n'êtes pas prudent, à un moment donné, vous risquez de vous dire, ben, puisque tout le monde le pense, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, vous vous lancez dedans. C'est un voleur. Vous risquez d'embarquer dedans alors que vous ne vous rendez pas compte que c'est un piège que Satan est en train de vous tendre en essayant, en fait, de refaire votre identité, de refaire votre réputation et de vous emmener tranquillement à devenir ce que l'accusation est en train de dire. Et j'aimerais parler à quelqu'un de cela. Et parfois, la fausse accusation peut arriver même dans le mariage où le conjoint dit, ou la conjointe dit, tu me trompes. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? De toute façon, elle pense que je la trompe, donc... Et voilà, et vous tombez dans le piège de l'accusation.
Vraiment, vraiment, soyons très, très sages. J'ai une citation ici de George Campbell Morgan qui a dit « Si vous n'avez aucune opposition à l'endroit où vous servez au mauvais endroit. » Ça peut paraître un peu drôle comme affirmation, mais si Jésus nous a dit qu'on serait victime de persécution, si Jésus nous a prévenu, nous a mis en garde, c'est que ces choses-là risquaient d'arriver. Et l'opposition fait partie de notre vie et plus on va porter du fruit, plus on va être actif, plus on aura d'impact là où on sert, plus on aura de l'opposition. Donc demeurez toujours dans la vérité, peu importe les fausses accusations qui seront données. On ne dit pas ici qu'il ne faut pas rétablir la vérité, pas du tout. Tentez de rétablir la vérité autant que ce soit possible. Mais si en face de vous, vous avez des gens qui ne vous écoutent pas, qui ne veulent rien entendre, eh bien, par-dessus tout, gardez votre cœur. Ne tombez pas dans les pièges que Homer a cités tout à l'heure, les pièges de l'ennemi qui cherche à vous faire chuter dans ces fausses accusations. Gardez votre cœur, ne vous remplissez pas d'amertume, mais au contraire, continuez votre mission, les yeux fixés sur l'objectif et surtout sur l'éternité. Et on va parler maintenant avec toi, Frank, d'une martyre, je ne sais pas, tu vas nous le dire dans quelques minutes, dans la rubrique Flashback.
Oui, Evelyne, on parle de fausses accusations et comment est-ce qu'il y a de gens sur cette terre qui ont vécu de tout leur cœur pour Dieu et qu'ils ont vécu des fins tragiques et que beaucoup de gens pourraient dire que c'est injuste, alors que Jésus avait dit qu'on allait vivre des tribulations dans ce monde lorsqu'on allait marcher avec lui et le servir. Il y a des choses qui vont arriver tôt ou tard, et la persécution fait partie de ces choses. Dieu sait récompenser ceux qui sont morts pour lui, qui sont morts martyrs pour leur foi. Et ces gens-là auront, même la Bible dit, une meilleure résurrection. C'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas comprendre pleinement, mais je sais que Dieu va être fidèle en cette journée. Et là, on est en Afrique, en Écosse, et il y a la société missionnaire de Edinburgh qui veut envoyer 2 missionnaires en Afrique de l'Ouest. Alors, on est en 1797, et comme j'ai dit, en Écosse, il y a cette société qui veut avoir 2 personnes, 2 missionnaires, et il y a 2 jeunes hommes. Il y en a un qui s'appelle Peter Gregg et l'autre Henry Brunton. Donc, c'est deux jeunes hommes qui sont en feu pour Dieu, début vingtaine, Peter et Henry. Et Peter, en fait, c'est un ancien jardinier. C'est quelqu'un qui faisait sa vie, faisait ses choses, mais qu'il était en feu pour Dieu. Et il se passait quelque chose en Écosse dans ces années-là. Il y avait vraiment une action du Saint-Esprit qui se passait. Les jeunes étaient en feu pour Dieu. Et puis, il voulait envoyer des missionnaires vers les tribus dans la région actuelle d'aujourd'hui du Sierra Leone et du Burkina Faso. Mm-hmm. Donc, ces deux régions-là, en 1797, l'Écosse voulait envoyer des missionnaires pour pouvoir évangéliser et voir justement l'action de Dieu là-bas dans cette région. Et donc, Peter et Henry sont extrêmement zélés et ont vraiment envie de pouvoir faire partie de cette mission. Et ils vont et ils demandent au conseil de la société missionnaire, « Envoyez-nous, s'il vous plaît, on veut être ceux qui allons aller là-bas. On veut faire ce voyage, on est prêt, on veut servir Dieu. » Et puis ils leur disent, « OK, on y va. » Et donc, ils partent comme ça. Ça a pris un long moment avant qu'ils arrivent là-bas. Et une fois qu'ils sont arrivés, ils se sont séparés un dans un village et l'autre dans l'autre village, à peu près, si ma mémoire est bonne, à une centaine de kilomètres l'un de l'autre. Et puis, ils se sont dit, « Ben toi, tu attaques là, moi, j'attaque ici. » Et puis, on évangélise, on y va. Et leur tactique, évidemment, comme tous les autres missionnaires européens ou que ce soit même à l'époque l'Amérique du Nord où est-ce que les gens pouvaient voyager, tout ça, c'était de pouvoir avoir une porte d'entrée avec les chefs des villages de ces endroits-là pour pouvoir juste devenir amis comme ça. Et puis, Peter arrive vers une certaine tribu et il y avait le chef qui s'appelait le chef Fantimanra. Donc, Fantimanra, c'était le chef d'une tribu et ils étaient super gentils et ils ont justement vraiment accueilli Peter comme étant un des leurs.
Wow.
Et ils ont dit, en fait, on veut t'avoir ici. Il a commencé à apprendre leur langue et même que le chef lui a donné un morceau, une parcelle de terre pour qu'il puisse se bâtir une petite maison, une petite hutte à lui, qu'il ait sa petite place. Et en fait, Peter, tous les soirs, il assistait au feu de camp de la tribu. Il apprenait à les connaître et lui-même, il partageait avec eux. Il voulait apprendre un peu de leur culture. Et puis en même temps, il commençait à tranquillement évangéliser, parler de Jésus, etc. et tout ça. Et de son côté, Henry, les choses allaient bien aussi. Là,
jusqu'ici, ça va plutôt bien.
Ouais, c'est une belle histoire.
Ouais, pour l'instant.
Et donc,
ça s'arrête là, non?
Non, parce que les deux hommes voulaient vraiment avoir accès à une tribu qui était connue comme étant une tribu violente à cette époque-là. Mais ils voulaient vraiment pouvoir partager le message de l'Évangile avec eux. Et ils priaient pour avoir une porte ouverte et il n'y a rien qui se passait. C'était compliqué malgré les progrès qu'ils vivaient chacun de leur côté. Ils voulaient avoir cette porte ouverte. Et puis là, un soir du mois de janvier de l'année 1800, donc c'est l'année 1800, je crois que c'était le 31 janvier, il y a sept hommes de cette tribu qui était connue comme étant une tribu violente qui vont au village du chef Fantimanra comme ça. Et puis, ils voulaient parler avec Peter et tout ça. Et là, waouh, il se dit, mais c'est extraordinaire. On a prié et on veut voir la main de Dieu. Et donc, il passe la soirée avec eux. Les choses vont super bien. Il leur montre ses possessions qu'il avait amenées de l'Europe. Il les amène dans son intimité. Il commence à lui montrer ses affaires, la parole, les livres, les photos, les choses qu'il avait avec lui. Et il lui montre aussi, justement, il a fait un cadeau au chef de ces sept hommes qui étaient venus. Il lui a offert son rasoir, justement, qu'il utilisait pour pouvoir se raser. Et tout le monde était content. Les enfants étaient présents. C'était une super de belle soirée. Et là, il leur dit, ben on va continuer demain. Et là, ils se couchent, les enfants se couchent aussi, tout le monde est en train de dormir. Et là, vers minuit, le chef de ces sept hommes-là se lève tout doucement et avec le rasoir qui s'était fait donner de Peter, va et lui tranche la gorge d'une oreille à une autre. Et là, les enfants qui étaient dans la maison ont entendu le bruit et ont entendu comme des cris un peu. Il y avait un petit enfant qui s'était réveillé et qui a fait un semblant de dormir jusqu'à temps que les hommes aient fini et terminé de saccager la maison. Ils ont tout volé ce qu'ils pouvaient voler. Ils sont partis, et là, le petit garçon et les enfants, ils se sont levés, ils ont commencé à pleurer, ils criaient parce qu'ils aimaient Peter. Ils vont voir le chef et lui dit, chef, évidemment, dans leur langue, il leur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef rassemble ses guerriers à lui. Ils poursuivent les hommes dans la forêt. Ils les rattrapent. Ils réussissent à tout récupérer, le matériel qui était à Peter, qui était précieux même pour eux aussi. Ils aimaient tellement apprendre à découvrir et à connaître les choses de l'Europe et tout ça à cette époque-là. Et puis, les hommes, je ne sais pas ce qui est arrivé avec eux, mais le chef a ramené tous ses biens au village. Et Henry a continué à faire son œuvre de son côté. Et Peter, ce soir-là, à 25 ans, sa vie s'est terminée en ayant témoigné et évangélisé un village. Mais la bonne nouvelle, malgré tout ça, c'est qu'à peu près 20 ans plus tard, seulement 20 ans plus tard, il y avait des écoles, plusieurs écoles missionnaires d'ouvertes dans cette même région.
Wow.
Il y avait des milliers d'esclaves qui avaient été secourus de cette même région. Et plusieurs milliers de personnes allaient à l'église, aux réunions qu'il y avait de façon hebdomadaire à toutes les semaines. Il y avait un réveil qui commençait à se passer, alors que Peter et Henry avaient été parmi les premiers à aller évangéliser dans cette région-là.
Wow.
Il y avait vraiment il y a eu un move de l'esprit par la suite qui s'est passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir au Burkina Faso, c'est qu'il y a à peu près 21% de la population qui se dit chrétien, et 30%. Et pour ce qui est de Sierra Leone, c'est aujourd'hui 21% qui se disent chrétiens. Et ça a commencé dans ces années-là avec ces deux missionnaires chrétiens qui sont partis pour évangéliser ont donné leur vie, malgré que ça n'a pas été facile, malgré qu'il y a des difficultés. Tu te dis, mais ça peut sembler, comme je dis, parfois injuste, mais il y a parfois, pas pour tous, mais il y a un prêt aussi qui est là à servir Dieu. Et ce n'est pas Frank qui annonce une mauvaise nouvelle, ni Omer, ni Evelyne. C'est la parole de Dieu qui le dit, qu'elle a à avoir des persécutions, qu'elle a à avoir de l'opposition à l'annonce de l'Évangile. Et ces hommes ont vécu cette réalité. Et je voulais pouvoir prier pour, comme on le fait, Evelyne, pour ceux qui vivent parfois des persécutions, des moments difficiles. Je veux qu'on puisse prier pour vous là où vous êtes, parce que c'est pas facile. Il y a des choses que moi-même, je ne peux pas comprendre, que nous, on ne peut pas comprendre sur le plateau, parce qu'on n'a pas vécu les choses que vous avez vécues, mais je sais que la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses et que Jésus peut nous comprendre dans toutes nos faiblesses, dans toutes nos difficultés, parce que lui, il est passé par là. Accusé injustement, il a été persécuté, il a été fouetté, il a été crucifié injustement. Et la Bible a dit qu'on a un souverain sacrificateur qui est là, qui peut être compatissant avec nous parce qu'il est passé par toutes les choses qu'on peut connaître ou vivre. Il les a traversées lui-même. Et Seigneur, je veux prier maintenant. Et je veux prier qu'au nom de Jésus, tu puisses consoler les cœurs de ceux qui vivent des moments difficiles, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent. Ceux qui vivent des temps difficiles d'accusations injustes, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Afrique, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent sur cette terre. Il y a des pays dans lesquels les gens nous suivent, on le sait que c'est compliqué d'être un enfant de Dieu. Et on veut prier que s'il y a des accusations injustes qui sont posées, on veut prier que tu puisses agir et étendre ta main sur et dans leur vie. Que les projets et les plans de l'ennemi puissent être renversés. Que ta lumière divine, surnaturelle, puisse venir briller dans ces circonstances et mettre à la lumière la vérité comme tu l'as fait tellement de fois. Nous prions qu'il y ait une différence, Seigneur.
Oui.
Fais-le. Démontre-nous ta puissance. On te remercie, on te donne toute la gloire pour tout ce que tu vas faire. Merci, Père, au nom de Jésus.
Amen.
Merci, Seigneur.
Merci, Frank.
Merci, Seigneur.
Nous faire connaître ces histoires, c'est fou quand on y pense. C'est que l'Évangile n'avait probablement jamais été prêché dans ces régions-là du monde.
Mm.
Et pour nous, on ne réalise plus aujourd'hui ce que ça représente. Mais je pensais à ces deux jeunes, quand tu dis qu'ils sont portés volontaires. Ils ont voulu eux-mêmes aller là-bas. On dit « nous, envoie-nous », puis ils ont tenu à le faire. Et ils savent qu'il y a une tribu qui est violente et ils veulent absolument pouvoir leur prêcher l'Évangile. Mais quel amour, franchement, quel amour ça challenge, je trouve, parce que ils avaient compris la puissance de l'Évangile et la nécessité de prêcher à tous ceux qui n'en avaient pas encore entendu parler. Ouais. Et c'était le but de leur vie. Et c'est Peter qui est décédé, c'est ça? Peter, ouais. Ils sont décédés tous les deux aujourd'hui, bien sûr. Hein, mais Peter, pour moi, ce n'est pas un échec, en fait.
Pas du tout.
Bien au contraire, c'est quand on voit les fruits.
J'allais dire, il y en a qui pourraient dire, mais c'est injuste, il a perdu sa vie. Il est allé... il était conscient, il savait, et même à cette époque-là, les gens savaient que les missionnaires, c'était pas toujours facile. Des histoires déjà de martyrs ou de missionnaires qui ont perdu leur vie, surtout à cette époque-là, quand les gens arrivaient en Afrique, il y en avait beaucoup, beaucoup, quand tu lis l'histoire, qui mouraient dans les semaines en arrivant, soit de maladie, soit de malnutrition, soit un virus, un truc, tu te faisais piquer, tu te faisais mort. Il y en a beaucoup qui mouraient, ils savaient dans quoi ils s'en allaient. Mais aujourd'hui, il est au ciel... Et il y a une multitude de gens qui sont là aussi, qui vont dire merci à Peter parce qu'il a été obéissant. Il y en a qui vont dire, mais il a perdu sa vie. Oui, mais tellement d'autres ont été sauvés au travers de sa vie. Wow. Et ça, c'est énorme.
Vraiment. Énorme. Ah, c'est extraordinaire.
Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand marque d'amour que de donner sa vie. Et je crois que c'est quelque chose qui manque à notre évangile aujourd'hui, en fait. Bon, on a un évangile de... la prospérité, la destinée, mais cet évangile de souffrir pour que le royaume avance. Et oui, les gens sont décédés dans la mission en Afrique, en Inde, dans les Amériques, parce que Satan s'oppose, parce qu'il sait qu'il y a un assaut sur son royaume.
Amen.
Il y a un assaut sur une main mise qu'il avait, une main qu'il avait sur la région, pas seulement sur les gens, mais sur la région. C'est comme quand Jésus est arrivé à Gadara, le démoniaque qui tenait la région, le démon. Les gens ont dit non, c'est moi, je suis bien ici. Chasse-moi de la personne, mais ne me chasse pas du pays. Et quand un missionnaire arrive, quelqu'un arrive dans une région où l'évangile n'est pas annoncé, il arrive comme Jésus, il débarque. Et quand il débarque, le camp de l'ennemi est en train de trembler.
C'est une guerre spirituelle. On pense aujourd'hui, on pense surtout aux Américains. Ils sont forts dans l'honneur des soldats qui sont tombés au combat.
Ouais.
Mais ils vont dire, wow, on lève, ils nous ont protégés. Et c'est vrai, naturellement, ils ont protégé un pays ou un peuple pendant un certain temps. Mais quand tu penses, et nous, on connaît la vérité en accord avec la parole de Dieu, c'est plus que sauver un peuple pendant un temps, c'est sauver un âme pour l'éternité.
Oui, amen. C'est ça.
C'est extraordinaire. Et ils sont morts au combat, si on peut le dire comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé, c'est énorme.
Vraiment, vraiment. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui ont payé ce prix jusqu'à donner leur vie pour que l'Évangile puisse être prêché dans nos régions. Parce qu'il y a des régions du monde qui n'auraient jamais connu le Seigneur Jésus sans ça. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette émission. Soyez fortifiés si vous passez par des temps difficiles. Vraiment, que le Seigneur vous fortifie, que votre foi ne faillisse jamais. Restez accrochés au Seigneur, quoi qu'il arrive. Ne baissez pas les bras. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous avons prié pour vous et nous croyons que le Seigneur va vous fortifier au nom de Jésus. Je vous souhaite un très bon week-end et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.